Il y a toute une série de questions par rapport au bonheur. Alors, on a choisi cette question, c'est par où le bonheur, mais on aurait pu poser la question, c'est quoi le bonheur? Ou c'est quand le bonheur? Alors, le bonheur, c'est aujourd'hui ou pour demain? Des questions par rapport au bonheur, mais aussi un problème, un gros problème, c'est celui de la définition du bonheur, le problème des critères. Comment peut-on mesurer le bonheur? Et ça, c'est un vrai problème. Alors, l'Organisation de coopération et de développement économique a établi un nouvel indice qui s'appelle le BIB, le bonheur intérieur brut. C'est dans le pot de miel, là. Et ils ont trouvé que le PIB, le produit intérieur brut, n'était pas suffisant pour parler du bonheur. Alors, ils ont créé le BIB. Le bonheur intérieur brut, avec 11 critères, c'est les 11 pétales de la marguerite que vous voyez là, l'économie, évidemment, quand même, mais aussi l'environnement, la santé, la vie communautaire, l'éducation, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, et aussi le sentiment, très subjectif quand même, de satisfaction personnelle. Et j'ai vu ça dans un journal anglais, où selon le journal anglais, la France arriverait 18e sur les 34 membres de l'OCDE. Et on va dire qu'elle est dans la moyenne, un peu comme d'habitude. Mais donc le français serait moyennement heureux, selon cet indice-là. Les premiers, selon l'indice BIB, c'est l'Australie. Et on sait qu'il y a de nombreux jeunes français qui vont en Australie pour trouver le... Ah, merci, suivez. Les deuxièmes, le Canada. Troisième, la Suède. Alors c'est intéressant cet indice de BIB, mais il est déjà contesté. Il y a quelqu'un qui disait sur Internet que le bonheur, de toute façon, n'est pas mesurable. Indice BIB ou pas, il n'est pas mesurable. Et effectivement, il est extrêmement difficile de mesurer le bonheur. Quels sont les instruments de mesure? Quels sont les critères? Et puis ça dépend de l'endroit où l'on se trouve. L'Australien n'a peut-être pas les mêmes attentes que le Béarnais, même s'ils aiment tous les deux le rugby. Mais y a-t-il du canard confit en Australie? Non, je ne pense pas, quoi. Chaque individu a sa définition ou pas du bonheur. Et le sondage de la maison de retraite était très intéressant à ce titre. On voit qu'une personne âgée aura une définition beaucoup plus simple, beaucoup plus humble qu'un jeune cadre dynamique qui commence sa carrière et qui veut tout manger. Michel Onfray, vous savez, ce philosophe qui a pignon sur rue aujourd'hui, a écrit un livre qui s'intitule « Le bonheur est dans le corps », dans la satisfaction de ses plaisirs. Et il dit, je cite, « Il faut s'affranchir de toutes les valeurs judéo-chrétiennes qui nous ont empêchés de jouir de notre corps ». Et là, il caricature le christianisme en disant cela. Parce que la foi chrétienne, on est pour le corps. Pour le corps, dans la sexualité, et aussi pour la résurrection finale, c'est la résurrection du corps. On est pour le corps. Mais pour Michel Onfray, il faut s'en affranchir du christianisme et vivre son bonheur dans le corps, dans la satisfaction de ses plaisirs. Alors pourquoi pas? Mais chacun peut cliquer sur l'icône de son choix pour le bonheur. Peut cliquer sur l'avion, là, les voyages. On peut cliquer sur le cœur, l'amour... romantique. On peut cliquer sur le trèfle à quatre feuilles, la chance. On peut cliquer sur l'argent. Et on est beaucoup à vouloir cliquer sur l'argent, même si on sait que l'argent ne fait pas le... Deuxième. On va arrêter là, pardon. On le sait et on n'ose pas trop cliquer ou dire aux autres qu'on clique sur l'argent pour le bonheur. Mais on clique quand même. Parce qu'on sait qu'il en faut un peu pour vraiment être heureux. L'argent ne fait pas le bonheur, mais ça aide, n'est-ce pas, au bonheur? C'est l'argent qui compte quand on peut compter dessus. Pourtant, même des critères quand même relativement fiables comme l'argent peuvent avoir des bugs. Il y a Goethe, vous connaissez Goethe, c'est le Voltaire allemand ou le Shakespeare allemand qui était beau, paraît-il, intelligent, riche et qui a terminé ministre. Alors, je ne sais pas si c'était un signe de bonheur, ministre, il faut demander à Valls, mais bon, bref. Et il disait à la fin de sa vie à un ami, je cite, « Si je devais additionner mes heures de bonheur, je n'arriverais pas à un total de 3 jours. » sur toute sa vie, en additionnant. Ça ne fait pas beaucoup sur toute une vie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de désillusions par rapport au bonheur. Il y a beaucoup de déceptions par rapport au bonheur. Il y a beaucoup de naufrages sur les plages paradisiaques du bonheur. Faites-vous. Êtes-vous heureux? Comment va votre BIB? Votre bonheur intérieur, brut ou net? Je ne sais pas. Alors on pourrait multiplier les études sociologiques sur le bonheur et les citations, il y en a des tonnes parce qu'on parle de bonheur depuis l'Antiquité, mais elles sont intéressantes, mais dans ces cultes en 3-2, et on vous propose d'entendre une autre parole sur les questions de la vie, sur ces questions qui nous taraudent, et on veut entendre une autre parole, et en particulier, vous voyez, la parole de la Bible, qui est pour les chrétiens la parole de Dieu. Et elle parle du bonheur à travers des hommes et des femmes qui cherchent, tout comme nous, le bonheur, comme ce Zachée dont nous avons lu l'histoire tout à l'heure. Et j'aime beaucoup ce Zachée, il me fait penser à Coluche quand il commençait ses histoires. Zachée, c'est l'histoire d'un mec, c'est l'histoire d'un homme qui essaye de s'en sortir dans la vie, c'est l'histoire d'un homme qui se démène, c'est l'histoire d'un homme qui a d'abord qui a tout réussi dans la vie. Il est chef, nous dit le texte. Et ça, c'est déjà bien d'être chef. C'est quand même signe de réussite, un certain pouvoir sur les autres. Il est chef des collecteurs d'impôts. Alors, collecteur d'impôts, à l'époque, il fallait payer sa licence à l'occupant romain. Et après ça, on pouvait tout faire au niveau des impôts. On pouvait demander à la population le montant qu'on voulait, pour autant qu'on ait payé sa licence aux Romains. Alors il a du pouvoir, il a de l'argent parce qu'il demande plus que ce qu'il donne aux Romains. Il est sinon respecté, au moins craint. Il a réussi dans la vie selon les critères les plus évidents de notre société. Il a le pouvoir, il a l'argent, il a la réputation. C'est lui qui commande, c'est lui qui dirige. Et il pourrait même être considéré comme heureux selon certains critères. Mais on sent bien que tout ne va pas. Tout n'est pas parfait dans la vie de Zachée. Le récit nous dit qu'il est petit. Il est petit. Alors qu'il veut être grand dans la vie. Il veut être grand dans la ville de Jéricho. Il joue au grand caïd sur les boulevards des Pyrénées de Jéricho. Mais il est petit. Et je verrais bien si on devait faire un film sur Zachée, pas prendre Michel spécialement, parce qu'il est grand, mais prendre Al Pacino. Al Pacino. Petit. Mais Caïd, Scarface, dans le rôle de Zachée. Et pour Zachée, c'est une contradiction dans sa vie. Et il est petit de taille, mais il cherche à se faire grand. Et c'est peut-être parce qu'il est petit de taille dans la vie quotidienne qu'il essaye de se faire grand aux yeux du monde et dans la société. Comme une compensation, Zachée pourrait avoir un complexe qui lui fait faire des choses que lui-même n'aime pas trop faire. Ça peut arriver, n'est-ce pas, des frustrations dans sa vie, des complexes, des contradictions qui nous poussent à faire des choses qu'on ne voulait pas faire. Alors, on ne va pas psychanalyser Zachée, mais ce ne serait pas impossible. Et puis, il y a une autre contradiction dans la vie de Zachée, c'est qu'il est riche. Zachée, il est plein aux as, il a tout ce qu'il faut et même plus. Il a tous les signes extérieurs de richesse, mais il est seul. Il est seul dans la vie. Personne ne le laisse passer pour aller voir Jésus. Il est obligé de monter sur un arbre. On ne lui fait pas, tiens, ah, c'est toi Zachée, vas-y. On sait... Non, au contraire. On sait qu'il est collecteur d'impôts et qui trempe dans des affaires louches. Mais Zachée est riche en monnaie sonnante et trébuchante, mais il est pauvre en relations, il est pauvre en amitié. Il est collaborateur de Romains. Il a réussi, c'est vrai, il est craint et respecté, c'est vrai, mais il est seul. C'est la réussite au prix des relations. Et il a fait un choix, des choix contradictoires. C'est un homme pétri de contradictions, comme beaucoup d'autres, comme nous tous. On a envie d'être ceci, mais on fait cela. On a envie d'être ceci un jour, mais quelqu'un d'autre le lendemain. On est plein de contradictions. Zachée, c'est aussi l'histoire d'un homme en manque. Ou c'est l'histoire d'un manque d'une vraie vie. ou manque de bonheur. Et je crois voir dans le fait qu'il court dans la rue et qu'il monte à l'arbre comme le signe de sa fragilité, de l'homme qui a tout réussi mais à qui il manque quelque chose. Il est prêt à se rendre ridicule aux yeux de la population en courant comme ça et en montant sur cet arbre. Il est prêt à le faire qu'il est en manque de bonheur, Zachée, ça se voit. Il est prêt à se montrer ridicule, à dévoiler ses contradictions devant tout le monde tellement il souffre en lui-même. Il souffre de cette vie peut-être réussie, mais où il n'y a pas le bonheur. Zachée, c'est l'histoire d'une rencontre qui change complètement la donne. Il est dans l'arbre, Zachée. Jésus ne peut que le voir. Et Jésus s'invite chez Zachée. Jésus va chez Zachée. Il y a « Je suis passé chez Soch » et il y a « Jésus va chez Zachée ». Et Zachée accueille Jésus chez lui, à moins que ça soit Jésus qui accueille Zachée chez Zachée. En tout cas, il y a une rencontre personnelle, il y a une rencontre d'homme à homme ou d'homme à Dieu, parce que Jésus est Dieu. Il y a cette rencontre qui change tout. Et déjà, en descendant de l'arbre, Zachée a le sourire en banane, comme on a dit tout à l'heure. Il est plein de joie. Ensuite, juste l'entrée de Jésus chez lui, lui fait dire des choses qu'il n'a jamais dites. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Parce que tout simplement, tu es entré chez moi. Il va ouvrir son cœur parce que Jésus lui a ouvert le cœur. Juste en lui demandant d'entrer chez lui. Et le récit termine en disant, le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré dans cette maison. Et c'est Jésus qui dit ça. Et on n'entend plus parler de Zachée par la suite, mais tout porte à croire que le salut n'est jamais sorti de chez Zachée. Le salut, et on pourrait risquer le mot bonheur comme synonyme. Le bonheur est entré dans cette maison, lui dit Jésus. Et il n'en est jamais sorti. Alors il n'est pas question ici de proposer une recette du bonheur, un peu de ceci, un peu de cela, mais je vous donne quand même quatre je ne sais quoi, d'ailleurs, au sujet du bonheur. Ou quatre interpellations, comme Jésus, quand il traverse Jéricho, il voit Zachée sur son arbre, l'interpelle. Quatre interpellations de Jésus au sujet du bonheur, à nous qui sommes ou qui jouons à chat perché avec le bonheur sur notre arbre. Jésus nous dit, Jésus nous interpelle. Si tu veux être heureux, revois tes critères au sujet du bonheur. Il y a quelques années, le Nouvel Observateur, le journal, le magazine, faisait un dossier sur les résidences secondaires. Et vous savez quoi ? Comme titre, ils ont choisi « La quête du bonheur ». Alors, la résidence secondaire, elle sera où ? Pays Basque, Vendée, Corse, Riviera. Mais la quête du bonheur, et j'ai trouvé que c'était vraiment fort de café. C'était pas du journalisme, c'était du formatage. Ayez votre résidence secondaire pour être heureux. Comme si le bonheur avait quelque chose à voir avec la résidence secondaire, avec piscine. On veut nous le faire croire pour relancer l'immobilier. Et on finit par le croire. Parce que le formatage nous formate. Mais Jésus va nous interpeller sur justement la question des critères du bonheur. Il va le faire en particulier dans son sermon sur la montagne. En fait, c'est une colline. Et en fait, ce serait plutôt un séminaire. Le séminaire sur le bonheur sur la colline. Et il va utiliser plusieurs fois le mot « bonheur » ou le mot « heureux ». Mais dans son sermon qui fera date sur la montagne, ou son séminaire sur la colline qui fera date, il va y avoir un chambardement incroyable sur la question du bonheur. D'abord, il ne va pas donner de recette sur le bonheur, il va déclarer les gens heureux. « Heureux celui, heureux ceux ». Une déclaration de bonheur, ça ne s'est jamais fait. Mais un petit peu comme une déclaration d'amour. Quand quelqu'un nous fait une déclaration d'amour, on se sent tout de suite un peu amoureux de cette personne. Et quand quelqu'un nous fait une déclaration de bonheur, surtout quand c'est Jésus, on se sent tout de suite un peu heureux. Et non seulement il déclare le bonheur, mais en plus, Deuxième surprise, ils déclarent des gens heureux qui, à première vue, n'ont pas tous les critères du bonheur en main. Exemple. Matthieu 5, 3, Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 3. « Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes. » Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes. Il y a la pauvreté là-dedans. Alors Jésus ne fait pas dans le misérabilisme. Jésus ne fait pas l'apologie de la pauvreté. Il parle des pauvres en eux-mêmes, ou des pauvres spirituellement, ou des pauvres en esprit, et il les déclare heureux, ceux qui se reconnaissent comme pauvres intérieurement, ceux qui se reconnaissent ou qui reconnaissent leur manque de quelque chose dans la vie, comme Zachée. Heureux les gens, comme Zachée, qui prennent conscience de leur paradoxe, de leur contradiction, de leur frustration et de leur solitude, et qui sont prêts à monter à l'arbre et se laisser interpeller. Heureux qui, comme Zachée, reste sensible au cri de son cœur, au cri de son intérieur, parce que Zachée, peut-être pour la première fois de sa vie, a écouté son cœur et il s'est mis à courir et à monter sur un arbre pour voir Jésus et peut-être pour mieux se laisser voir par lui. Pourquoi fait-il cela ? Très probablement parce qu'il n'est pas tout à fait satisfait de son bonheur à la petite semaine. Et j'imagine que de temps en temps, chez Zachée, son cœur ne le laisse pas tranquille, ni sa conscience, ni son esprit, et il sent de manière diffuse un vide, comme le disait saint Augustin au IVe siècle. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Et Zachée le ressentait en comptant sa monnaie. Que l'âme ne peut se satisfaire de simplement compter son argent le soir ou de sentir son pouvoir sur les gens. Et Zachée sent peut-être qu'il manque une dimension spirituelle à son existence. Et que ce gars-là qui passe au loin, à Jéricho, va peut-être l'aider et on connaît la suite. Mais Dieu nous interpelle également aussi au niveau de notre cœur, en plein cœur, de notre fragile réussite humaine. Où on est ? Ne sens-tu pas le cri de ton cœur par rapport au vide dans ta vie? Heureux ceux qui reconnaissent leur manque de bonheur et qui sont prêts à se laisser chambouler dans leurs critères de bonheur. Deuxième interpellation pour un bonheur différent, mise sur les relations. Il y a une étude, Yvonne m'a fait part, qui est une grande surfeuse sur Internet devant l'Éternel, m'a fait part d'une étude aux États-Unis. Une étude sur le bonheur des gens, mais une étude qui a ceci de particulier, c'est que ça fait 75 ans qu'elle dure sur les mêmes personnes. Enfin, ils renouvellent, je suppose. Mais donc, il y a des personnes très âgées, puis mais c'est rare. C'est pas un micro-trottoir. Est-ce que vous pensez être heureux ou des choses comme ça, ou un sondage sur une semaine, sur 75 ans. Et on les a interrogés sur le bonheur, ou comment ils vivent, etc. Et la constante dans cette étude de 75 ans sur des personnes qu'ils ont suivies, la constante, c'est le bonheur est dans les relations. Dans les relations. Mais Zachée était seul. Il avait fait le vide autour de lui, mais il va s'ouvrir progressivement. D'abord, à ce Jésus qui passe dans sa ville et dans sa vie. Il entre chez lui, dans son intérieur, il s'y invite même, et là, va tout changer, et on assiste à ce que la Bible appelle une conversion. Un changement radical. Et une conversion, c'est pas l'adhésion à une série de thèses, ou à une série de valeurs, mais c'est l'ouverture à une relation interpersonnel qui va changer dans la vie et qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Et Zachée, suite à cette visite de Jésus, cette relation initiée avec Jésus, ne va plus chercher à impressionner la galerie, à jouer les caïds ou les gros bras de Jéricho pour compenser les frustrations. Il va entrer dans une vie quelque part plus authentique, plus en adéquation avec lui-même, avec le cri de son cœur. Et cette phrase qu'il prononce comme une résolution à la fin, « Voilà, je vais me mettre à aider les pauvres, à aider ceux qui sont en difficulté », nous montre qu'il va aussi s'ouvrir aux autres, qu'il va changer dans ses relations avec les autres. Il va entrer dans un mode relation avec les autres au lieu de se la jouer solo. Tout ça parce qu'il a rencontré Jésus et qu'il est entré en relation avec lui. Vous savez, dans l'évangile de Jean, dans la Bible, Jésus est présenté comme un berger, comme un bon berger. Et ce qui caractérise le bon berger, c'est qu'il va chercher loin la brebis qui était perdue. Et quand je dis loin, c'est très loin. Le berger est prêt à mettre sa vie, son bonheur, sa sécurité en péril pour cette brebis qui était perdue, comme Zachée et les autres. Et dans Jean 10, Jésus dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Et le fait que ce berger mette en jeu sa propre vie, et on parle de la croix, là, pour chaque brebis perdue, dans ses contradictions, dans ses paradoxes, dans ses frustrations, donne à chacune de ses brebis une valeur inestimable. Et en laissant Jésus entrer dans sa maison comme étant le berger de son âme, Zachée ressent, malgré sa mauvaise réputation, malgré ses paradoxes, ressent qu'il a aux yeux de Jésus une valeur inestimable. Et c'est ça qui change tout. Dans cette relation avec le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, on trouve quelque chose qui pourrait s'apparenter au bonheur. Et Jésus continue disant « Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. » Moi, ça me fait penser au bonheur, cette vie en abondance. J'ai rencontré en Belgique, il y a 20 ans, un type, Andy. Et Andy était homosexuel, il avait fréquenté les milieux gays de Californie. Il était de Grande-Bretagne, mais il était en Californie. Mais quand je l'ai rencontré, il était marié et père de 4 enfants. Et il faisait des conférences chrétiennes sur la restauration de l'identité. Andy avait fait une rencontre avec Jésus et il s'était senti accueilli par Jésus malgré les contradictions dans sa vie, malgré les paradoxes de sa vie, malgré sa mauvaise réputation. Et comme Zachée, le salut est entré dans la maison de Andy. Et il a retrouvé une identité nouvelle pour une espérance, une nouvelle espérance dans sa vie. Alors c'est un peu délicat aujourd'hui de parler d'un homosexuel qui ne l'est plus. Mais il faut prendre aussi ce genre de témoignage. Andy, l'homosexuel, qui est accueilli par Jésus et qui retrouve son identité pour vivre une vie pleine de défis, mais heureux d'être entré dans une relation avec quelqu'un qui vous change la vie puisqu'il vous a accueilli, tel que vous êtes. Dernière interpellation. Choisis le bonheur. Elle est de taille, cette dernière interpellation. Le bonheur dont nous parle Jésus n'est pas une recette, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, un petit peu d'argent, un petit peu d'amour, un petit peu de voyage, des croisières, un peu de chance et surtout la santé. Non. Pour Jésus, le bonheur ne se cuisine pas, il ne se mérite pas non plus, il ne vous tombe pas dessus par hasard, il ne se gagne pas non plus. Le bonheur se choisit, le bonheur est un choix, on se choisit heureux ou on choisit le bonheur. Il y a une expression en français qui dit « le bonheur si je veux ». Parce que c'est bien une boutade typiquement française. Il n'y a personne qui va m'obliger à être heureux, quand même. C'est le bonheur si je veux. Mais aussi, l'accent est mis sur la volonté. Ouais, pourquoi pas? Et dans les déclarations de bonheur de Jésus, dans son séminaire sur la colline, il n'y a rien à faire. Mais quand on entend une déclaration d'amour qui nous est adressée, il y a une réponse à donner, malgré tout. Et il y a une réponse à donner dans cette déclaration de bonheur de Jésus. Il va falloir prendre une décision. Zachée n'est pas en reste au niveau de la décision. Il en prend quelques-unes malgré tout, celle de sortir de chez lui, celle de courir, celle de monter à l'arbre, celle de se laisser interpeller par Jésus, celle de descendre de l'arbre, celle d'ouvrir la porte à Jésus, celle de décider d'entrer dans de nouvelles relations avec les autres. Sur le chemin du bonheur, il y a des décisions à prendre, ou il y a plutôt des pas à faire. Et je vous lis, va s'afficher un, un verset du psaume 84. C'est dans l'Ancien Testament, les psaumes sont des poèmes. Mais là, c'est David qui dit « J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de l'Éternel. » J'ai choisi de me tenir dans la maison de l'Éternel, ou sur le seuil, ou dans la maison de l'Éternel. Et plus loin, il dira dans le psaume, « Et l'Éternel ne refuse pas le bonheur à ceux qui viennent se placer dans la maison de l'Éternel. » Il y a un choix entre la maison de Dieu ou les tentes. Le psaume parle des tentes de la méchanceté, c'est-à-dire de la vie sans Dieu. Et pour la question immobilière, on a le choix, on n'a pas tous les choix, ça dépend du budget, mais le choix est quand même donné. Un studio en ville, une villa à la campagne, au centre-ville ou en banlieue, près du travail, ou près des terrains de sport où on va trouver le bonheur, près de la famille ou loin de la famille, près de la montagne, le bonheur, ou l'océan, le bonheur de surfer, c'est par où le bonheur ? C'est à moi de choisir selon mes critères, selon ce que je juge important. Et dans le langage d'aujourd'hui, choisir de se tenir sur le seuil de la maison de l'Éternel, ça veut dire choisir de positionner sa vie de manière différente que la majorité des gens aujourd'hui. C'est de faire un choix radical. C'est d'entrer dans la maison de Dieu. Ou de laisser Jésus rentrer dans sa maison, c'est pareil. Se positionner, c'est choisir de chercher premièrement les valeurs du royaume. C'est choisir de faire confiance aux promesses de Dieu pour ma vie et pour le monde. C'est choisir de vivre mon bonheur dans une relation vivifiante avec lui et dans des relations renouvelées avec les autres. Et Dieu ne refuse pas le bonheur à ceux qui font ce choix-là. Psaume 84. Alors, je vous parlais d'Alice Cooper. Pour les jeunes qui n'ont pas connu Alice Cooper, ils n'ont rien raté, mais c'était un chanteur des années 80 qui se caractérisait par beaucoup de violence pendant les concerts. Il coupait le cou de quelques poulets pendant le concert, il faisait gicler le sang un peu partout, c'était sympathique comme tout. Et en dehors des concerts, il était extrêmement violent et il saccageait les chambres d'hôtel, un peu comme les frères Callaghan, là, d'Oasis. Et il cassait aussi sa guitare. Et c'était ça son kiff. Il kiffait grave la violence. C'était ça son bonheur. Et ce gars-là, il a choisi de s'approcher de la maison de l'Éternel. Il a choisi de devenir chrétien. Il a choisi d'entrer dans une relation pacifique et pacifiée avec Jésus. Et je le cite, il a dit « Saccager les chambres d'hôtel, ce n'est pas ça être rebelle. » C'est à la portée de n'importe quel imbécile. Mais devenir chrétien, ça c'est être rebelle. Ça c'est du solide. Alice Cooper a choisi d'être rebelle avec Jésus en habitant dans la maison de l'Éternel. Et moi j'ai rencontré Alice Cooper. Eh ouais. C'est pour ça que je raconte cette histoire. À l'église évangélique de Scottsdale. Vous savez où c'est Scottsdale ? C'est tout près de Phoenix, en Arizona. Je ne sais pas ce que je faisais là-bas, dans ce trou perdu, mais... Enfin, pas vraiment perdu. Et j'ai vu Alice Cooper. Il était là, à l'église, avec moi. Je ne l'ai pas reconnu, c'est quelqu'un qui m'a dit « Hé, t'avais Alice Cooper ?» Il cassait rien du tout, hein, même pas le banc sur lequel il était assis. Il ne la ramenait pas. Il avait l'air d'être doux. Il avait l'air d'être doux. Et surtout, il avait l'air d'être heureux, Alice Cooper. Parce qu'il avait choisi de changer de lieu de résidence. Dieu ne refuse pas le bonheur à Alice Cooper et à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Le bonheur dont Jésus nous parle à travers Zachée ou son sermon sur la montagne, ce n'est pas un bonheur commercial, sucré, à l'eau de rose. C'est un bonheur qui se choisit, c'est un bonheur qui se décide. Dans l'Ancien Testament, il y a le prophète Jérémie qui dit de la part de Dieu, comme tous les prophètes le font. Il parle de la part de Dieu et il dit cette phrase pour le peuple hébreu qui est en exil, qui n'est pas bien, qui ne vit pas le bonheur, pas du tout. Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que j'ai conçus pour vous, que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Afin que vous ayez tous un avenir qui soit fait d'espérance. Jérémie 29. Dieu a des projets de bonheur pour chacun d'entre nous, pour toi et pour toi et pour toi, et pour moi aussi. Et quelle que soit la situation où nous nous trouvons, quel que soit le paradoxe de notre vie, les contradictions que nous vivons, quel que soit l'exil où nous sommes, même en étant bien chez nous, on peut vivre des situations d'exil. Mais il nous faut recevoir cette promesse et nous laisser bouleverser par cette promesse, nous laisser retourner dans nos critères habituels et avancer sur ce chemin-là, faire peut-être le pas de la foi, changer de maison. J'étais dans cette maison centrée sur moi-même, seul, à faire mon petit bonheur à la petite semaine. Je désire faire ce pas et m'approcher du seuil de la maison de l'Éternel pour y trouver le bonheur. Le bonheur selon lui, selon Dieu, selon ses déclarations de bonheur. Le bonheur, c'est le projet de Dieu pour toi. Il y a une chose que nous voulons faire, et nous allons chanter. Une chose que je désire ardemment. Une chose que je décide peut-être ce matin. Je désire habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour que j'y reçoive ce bonheur éternel. Le bonheur d'une relation renouvelée avec Dieu, avec moi-même, avec les autres. Une chose que je désire ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel.